D'accord? L'homme ordinaire différent. Alors, dans ce cas-là, c'est un homme. Mais sachez bien que, voilà, pour les femmes, ça s'applique aussi. Et je vais vous donner un peu de contexte pour démarrer. Nous sommes en 1447 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, on est loin dans l'Ancien Testament, là. Et le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte. Il sort de l'Égypte. Il passe 2 ans dans le désert, à traverser le désert, dont 11 mois qu'ils ont passé dans un campement en bas du mont Sinaï, où Moïse a reçu la loi de Dieu. Et toute la communauté est entrée en alliance avec Dieu. D'accord? Donc ça fait à peu près 2 ans. Et puis, ils arrivent à l'oasis de Kadesh Barnea. Donc, ils ont traversé le désert. Ils arrivent à l'oasis de Kadesh Barnea, qui est juste avant la terre promise. Juste avant. Et Dieu dit, maintenant, c'est le moment pour mon peuple de recevoir leur héritage. Vous aviez été très sages. Bon, pas très sages, en fait, mais vous avez réussi à traverser le désert. Vous êtes là, Kadesh Barnea, maintenant, c'est le moment. Et donc, ce qui se passe, c'est que Moïse, bon, vous connaissez peut-être l'histoire, il envoie 12 espions pour aller voir un peu ce qui se passe dans le pays. Et ils doivent explorer, ils doivent revenir avec un rapport qui explique ce qu'ils ont vu. Et parmi ces 12 personnes, il y a 2 en particulier dont on va parler aujourd'hui. Il y a Caleb, qui représente la tribu de Juda. Et puis, il y a Josué, qui représente la tribu d'Éphraïm. Donc, 2 des 12 tribus. Et Moïse leur dit, et si on peut mettre le premier verset. Voilà les consignes que Moïse leur donne. Il dit, examinez le pays, voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort, faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Et comment sont les villes, si les villes sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre. Y trouve-t-on des arbres ou non. Ayez du courage et rapportez les fruits du pays. C'était en effet l'époque des premiers raisins. Donc, Dieu, il a bien choisi son moment quand même. C'est le moment où on va voir tout ce qui est vraiment bon dans ce pays. Alors, vous connaissez l'histoire. Les espions, ils reviennent après 40 jours et ils racontent ce qu'ils ont vu, ils racontent tout. Et 10 d'entre eux racontent aussi que bah, malheureusement, il y a les gens qui sont dans ce pays qui sont très forts, qui sont très grands et en fait, vaut mieux pas y aller. Parce que, bon, c'est compliqué. Et en fait, ils exagèrent à fond. Dans l'espace de 4 versets, les gens du pays passent d'être les gens qui sont très forts, ça c'est le verset 29. Ensuite, verset 31, ce sont les gens plus forts que nous. Puis on arrive à verset 33, il y a même quelques géants. Et puis, par la fin du verset 33, ils sont 17 fois plus grands que nous. Alors, comment est-ce que je sais que c'est 17 fois? Parce que ce qu'ils disent, c'est que, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Alors, j'ai bien regardé, la taille moyenne d'une sauterelle, c'est 10 centimètres. D'accord? Donc, si on prend la taille moyenne de quelqu'un, bah, peut-être un guerrier, on peut dire peut-être 170 centimètres. Donc voilà, ça fait déjà 17. D'accord? Donc en 4 versets, les gens ont poussé comme ça. Et ça, c'est le rapport que 10 personnes parmi toutes ces espions, ça, c'est le rapport qu'ils ramènent. Et bref, parce qu'eux, ils avaient peur, ça sème la peur chez le peuple. Parce que n'oubliez pas, ce sont des gens qui ont été choisis de chaque tribu parce qu'on croyait qu'on pouvait leur faire confiance. Et donc, quand les gens, on croit qu'on peut leur faire confiance et ils reviennent et ils disent, oh, faut pas y aller, bah, forcément, ça donne pas trop envie. Mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple, comme malheureusement il a l'habitude de faire, commence à se plaindre, commence à dire, oh, il ne fallait pas y aller, il faut qu'on fasse autre chose. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Nombre 13, verset 30. Et on voit Caleb, il essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays quand nous en sommes vraiment capables. Nous en sommes vraiment capables. Donc c'est motivant quand même, c'est motivant. Mais surprise, les Israélites n'écoutent pas et ils décident de retourner en Égypte. Et on va lire ensemble, il y a un passage, c'est assez long, donc ce que j'ai fait, j'ai abrégé un tout petit peu. Mais je vous encourage de lire tout le passage quand vous rentrez à la maison, parce que là, vous allez voir, il y a des choses supplémentaires qui se passent. Mais on va juste lire ce qui se passe ensuite. Josué et Caleb, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Ça, c'est un signe de détresse. Ce n'est pas parce que tout d'un coup, ils avaient chaud. C'est non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de passer à côté. Qu'est-ce qui se passe? Ils déchirent leurs vêtements. Et dirent à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Alors, prochaine... Alors là, j'ai fait une simple recherche sur Internet et j'ai cherché raisin Israël. Et c'est ça que j'ai vu, d'accord? Donc c'est une image des vignes qui poussent en Israël. Donc lorsque Josué et Caleb parlaient, c'est ça qu'ils avaient en tête. C'est on a vu ce pays, c'est excellent. On voit ça. Moi j'ai pensé un peu les Vosges quand j'ai vu ça. Et donc c'est cette image là qu'ils ont. Donc Josué et Caleb ils ont vu. Ils ont vu et ils sont tellement convaincus que c'est bon qu'ils sont tous les deux prêts à prendre position pour cette promesse. Si on peut continuer. Toute la communauté parlait de les tuer. Sympa. Parlait de les tuer à coups de pierre quand la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre aux yeux de tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore? Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance, alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires? Dès demain, vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert, en direction de la mer des roseaux. Vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer, excepté Caleb, fils de Yefouné, et Josué, fils de Noun. Et en fait, non, c'est bon. Ça, c'est Kadesh Barnea. Alors, ça, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça donnait il y a quelques années. Mais là, ça, c'est le désert. Et Kadesh Barnea, c'est un oasis. Donc, c'était quand même le petit coin de verdure dans un paysage. Bon, on voit, il n'y a pas grand-chose. Et donc là, on a vu, voilà, les vignes, les collines. Et Dieu dit, non, vous n'entrez pas. Faites demi-tour, parce que là, vous allez retrouver ce lieu-là. Vous allez retourner dans le désert pendant un certain temps, ok? Vous avez mis 40 jours à reconnaître le pays, eh bien, vous porterez les conséquences de vos fautes durant 40 ans. Une année pour chaque jour. Les hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays et qui, à leur retour, avaient entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays, ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'Éternel. Des hommes qui étaient allés prospecter le pays, seuls Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefunné, restèrent en vie. Donc c'est du sérieux, cette histoire. C'est pas rien. Et si on cherche un modèle à suivre dans cette équipe d'espions, alors c'est sûrement pas les 10 espions qui ont déplu à Dieu. J'espère que vous êtes d'accord. Sauf si vous trouvez qu'une mort brutale, soudaine, devant le Seigneur, c'est quelque chose que vous cherchez dans votre vie. Mais je ne pense pas. Rassurez-moi, je ne pense pas. Non, ça ce n'est pas le modèle qu'on veut suivre. Ce n'est pas le modèle qu'on veut suivre. Et ça nous laisse avec Josué et Caleb. Et quand je regarde la vie de ces deux hommes-là, si je suis honnête, je m'identifie beaucoup plus facilement avec Caleb qu'avec Josué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la vie de Josué, dès sa jeunesse, c'est exceptionnel. Tout ce qui se passe pour lui, c'est exceptionnel. On va regarder sa vie. Juste, on va prendre quelques points. On ne va pas regarder tous les versets parce que ça va prendre un peu trop longtemps. Mais déjà, premier point, il a connu la vie d'esclavage en Égypte. C'est un adulte. Donc, ça fait 2 ans qu'il a traversé le désert. On peut imaginer qu'il a été esclave. C'est le chef de l'armée contre les Amalécites, juste après la sortie d'Égypte. L'histoire, c'est en Exode 17. Donc, chef d'armée, c'est quelqu'un qui, voilà, il a de la présence, il a de l'autorité. Moïse, prophétiquement, donc Moïse, le grand chef, le grand prophète, change son prénom. Parce qu'avant, il s'appelait Hoshéa. Et Hoshéa, ça signifie « salut ». Et Moïse dit « non, 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 on va changer ton prénom ». De manière prophétique, maintenant, c'est Josué. Josué, ça veut dire « salut de Dieu ». Okay? Donc, voilà, on a le grand chef qui prophétise sur lui, qui change son prénom. Il est assistant de Moïse depuis sa jeunesse. Là, ça, on lit en Exode 24. Josué l'accompagne lorsque Moïse gravit la montagne pour recevoir la loi. Ça, ce n'était pas donné à tout le monde. Mais ça, c'est Josué. Il passe son temps à la tente de la rencontre. Donc là où demeure la présence de Dieu. Et Josué, il est là. J'ai déjà prêché sur ça dans le passé. Mais il est juste là où la présence de Dieu habite avec son peuple. Il a des responsabilités dans la tribu d'Éphraïm. Donc c'est quelqu'un qui est quand même, il a quand même une certaine position. Et Caleb, qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Lui aussi a connu la vie d'esclave en Égypte. On sait qu'il a 38 ans au moment de l'Exode, au moment où le peuple a quitté Égypte. Et il a 38 ans. Donc il a certainement passé pas mal de temps dans le travail forcé. Comme les autres adultes. Selon l'encyclopédie du judaïsme, son prénom signifie chien. C'est sympa. Bon, un chien, c'est sympa. Mais bon, c'est pas salut de Dieu, quand même. C'est chien. Donc c'est un prénom ordinaire. C'est le genre de prénom qu'on trouvait un peu partout. La Bible ne parle pas d'un moment où il a reçu, quand vous serez plus grande, voilà ce qui va se passer. On n'a rien de tout ça. Il n'y a rien qui indique qu'il y a un côté un peu plus spirituel ou prophétique ou un destin glorieux comme celui de Josué. Il n'y a rien qui l'indique jusqu'à là. On sait qu'il avait des responsabilités dans la tribu de Juda, parce qu'il était choisi pour aller voir le pays. Donc on peut imaginer que c'est un homme quand même sérieux, fiable, Sinon, on n'a pas ce genre de responsabilité. Mais c'est tout. On ne sait rien d'autre de sa vie. Par rapport à ce qu'on sait de la vie de Josué, il y a vraiment très, très peu d'informations par rapport à Caleb. Et puis, il y a le moment clé qui arrive, où avec 11 autres personnes, il est choisi pour aller faire un peu de reconnaissance dans le pays. Et il vit les événements dont on vient de lire. Donc, il vit l'expérience de la terre promise. Il revient, il est enthousiasmé. Il est rempli de foi. On a vu ce qu'il a dit. « Allons-y, on est capable. Dieu est avec nous. » Et avec Josué, il risque de se faire tuer à coups de pierre parce qu'il est tellement convaincu de ce qu'il a vu qu'il prend position devant les gens qui veulent le lapider parce qu'il n'aime pas ce qu'il est en train de dire. Mais voici le pire dans sa vie. Malgré, et pour Josué aussi, malgré leur fidélité et leur obéissance personnelle, ils doivent faire demi-tour et retourner dans le désert avec l'ensemble du peuple. Avec la promesse que dans une quarantaine d'années, ils ont le droit de retenter le coup. Et ça, c'est malgré leur fidélité, leur obéissance. Et là, c'est quand tous leurs contemporains seront morts. Il n'y a pas de dérogation pour Caleb et Josué. Dieu ne dit pas, parce que vous deux, vous étiez bien sage, bien fidèle. Dieu ne dit pas, vous deux, vous pouvez y aller dans la terre promise. Bon, les autres, ils peuvent passer un peu plus de temps dans le désert. Non, ils doivent subir les conséquences d'une décision collective. Et ça, je ne sais pas pour vous, ça ne me semble pas très juste. C'est moi ou... C'est dur, c'est dur à vivre. Et voilà un petit rappel de la déception. Tu peux mettre le... Voilà ce qu'ils ont vu, à gauche. Et puis à droite, ça c'est bon, 40 ans. 40 ans, c'est chouette, hein? Et donc on a Caleb et Josué qui ont l'image à gauche dans leur tête, mais ils savent que pendant 40 ans, ils ont l'image à droite. C'est compliqué. Et donc, de retour dans le désert, Josué, il fait quoi? Il retourne à son travail d'assistant de Moïse, passer ses journées près de la présence de Dieu, à l'attente de la rencontre. Il est nommé officiellement comme successeur de Moïse à la tête du peuple. Ça, c'est en Nombre 27. Et Deutéronome 31. Il a le privilège, et ça, ce n'est pas donné à n'importe qui, il a le privilège d'être invité par Dieu lui-même pour une rencontre en tête-à-tête dans l'attente de la rencontre. Dieu lui parle directement, Dieu lui promet d'être avec lui dans ce qu'il va entreprendre, dans la conquête du pays. Moïse, le grand leader, impose les mains sur Josué et Josué reçoit l'esprit de sagesse. Et comme Moïse l'a fait 40 ans plus tôt, il y a un moment dans la vie de Josué, où lui aussi, il fait un chemin à travers les eaux. Cette fois-ci, « Oh Samuel, réveille-toi » Et donc, cette période aussi, il faut savoir pour Josué, cette période, c'est une période de préparation. Dieu, il lui parle, il le prépare, on a l'impression qu'il y a quand même une communication entre Dieu et Josué qui se passe pendant ces moments de désert pour que Josué soit prêt, encouragé, reboosté. Mais ça, c'est le destin glorieux de Josué. Et Caleb, pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'on sait? Vous avez des idées? Non. Rien. On sait strictement rien de ce qui se passe dans la vie de Caleb. Tout ce qu'on sait, qu'il y a une quarantaine d'années, de rien en particulier, de sa vie, qui se vit comme ça. Il y a la routine, il y a le vieillissement, malheureusement. La Bible ne mentionne pas son nom dans cette période après le retour dans le désert. La Bible ne parle pas de lui, ou pas encore. Donc on peut imaginer que quand le peuple se déplace dans le désert, ben Caleb, il se déplace avec eux. Quand le peuple s'arrête, que Caleb s'arrête avec eux. Les Israélites, ils élèvent les troupeaux. On peut, je ne sais pas, peut-être ils faisaient berger, peut-être ils faisaient service d'abattage, peut-être ils géraient un peu la logistique, peut-être il avait un côté plus administratif, ils géraient la logistique de bouger, je ne sais pas combien de milliers de personnes, il faut bien que quelqu'un gère ça. Mais on ne sait absolument rien de sa vie, de comment il a vécu ces années dans le désert. Donc pendant 38 ans, c'est vraiment la routine de l'homme ordinaire. Il n'y a pas de rencontre particulière, qu'on sache, avec Dieu. Il a sa vie, il a sa famille, il a son domaine de responsabilité. Et il a une routine qui aurait dû être différente. Ça aurait dû être différente. Si seulement le peuple avait cru, si seulement le peuple avait dit au bon moment, oui, on y va. Sa vie n'aurait pas été pareille. Alors, donc ma question aujourd'hui, c'est comment vivre avec une telle déception? Comment vivre avec ça? Parce qu'on a déjà dit, c'est dur. On peut avoir l'impression que c'est un peu injuste quand même. Dieu, j'ai fait tout ce que tu voulais et tu m'envoies encore dans le désert pendant 40 ans. Je n'ai pas de nouvelles de toi particulier. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu as obéi à Dieu jusqu'au bout, ça c'est écrit. Tu as tout fait pour que la volonté de Dieu se fasse. Là aussi, on l'a lu. Tu as risqué ta vie pour soutenir le projet de Dieu. Et Dieu te dit, fais demi-tour, retourne dans le désert avec les autres et il faut attendre 40 ans. Et tu vas voir mourir tous vos amis et toute votre famille, ou les adultes en tout cas, de votre famille, tu vas connaître le désert et le deuil avant d'avancer plus loin. Alors peut-être que vous êtes plus fort que moi. Honnêtement, je ne suis pas sûre comment je réagirais dans une situation comme ça. J'aimerais bien croire que voilà, ça va Dieu, voilà, ça va. J'ai plus peur, peut-être, que je réagirais, peut-être que je me fâche un tout petit peu contre Dieu. C'est possible? Ouais, on se fâche un tout petit peu. Peut-être on risque de se dire, à quoi ça sert d'être fidèle à Dieu? À quoi ça sert? Ça ne m'a rien donné. Donc, à quoi ça sert? On commence à se plaindre un tout petit peu? Peut-être. On commence peut-être à se dire, bon, le pays n'était pas aussi bien que ça. Parce qu'il faut quand même justifier le fait qu'on n'est pas là. On est ailleurs. Ouais, mais en fait, c'était nul, ce pays-là. Il y avait trop de collines et voilà, c'était pas aussi beau que ça. Peut-être on commence à être un tout petit peu jaloux de Josué. Parce que lui, il a aussi été fidèle, mais lui a droit à des rencontres avec Dieu. Peut-être. Peut-être. Peut-être, on se dit, plus vite les gens meurent, plus vite on y va. Et on commence à donner un petit coup de main à la nature. Non, bien sûr que non. Non. On est en train de parler de Caleb, là. Caleb, et on va voir, c'est pas ce genre d'homme. Mais voilà quelques possibilités. 40 ans de déception. 40 ans. Vous vous rendez compte? Qui ici a déjà été déçu? Oui, donc je ne parle pas de quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous savez ce que c'est d'être déçu. Et là, vous savez que votre déception va bien durer. D'accord? Mais ça, comme je disais, ça, c'est pas Caleb. C'est pas Caleb. Notons ce que Dieu dit de Caleb au moment où il annonce son jugement de 40 ans de plus dans le désert. Parce que Dieu, il a dit, les Israélites, ils ont essayé de me forcer la main à maintes reprises, ils ne m'ont pas obéi, ils m'ont méprisé, ils me refusent leur confiance, ils ont dénigré la bonne chose que je voulais leur donner. Donc ça, c'est quelque part l'accusation que Dieu a contre le peuple. Mais si on regarde au nombre 14, Il dit, mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Cet homme, il n'a pas vécu avec un appel extraordinaire sur sa vie comme Josué. Mais ce qui fait la différence entre lui et les 10 autres qui sont revenus du pays, c'est qu'il est animé d'un esprit différent, qui l'a amené à croire Dieu, à lui faire confiance, à lui obéir jusqu'au bout, et il continue pendant ses 40 ans de désert d'être animé de ce même esprit. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr de cela? Je vais vous dire. On lit dans le livre de Proverbes que l'espoir différé rend le cœur malade. Quelque part, la déception, ça peut nous ronger. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a l'impression d'avoir raté quelque chose ou que, voilà, ça ne s'est pas fait comme on aurait prévu. Ça peut nous ronger. Ça peut nous ronger. Et ça peut, quand on croit que c'est Dieu qui est responsable de cela, ça peut nous amener à refuser de faire confiance à Dieu par la suite. Et ça peut nous mener à lui refuser une obéissance aussi. Et ça peut aussi toucher nos contacts avec les gens autour de nous. Parce qu'on commence à être un peu envieux ou un peu jaloux, ou un peu parce qu'on voit des choses se passer dans leur vie et je ne le vois pas dans ma vie. Et donc ça touche non seulement nous et notre cœur, ça touche nos relations avec notre entourage. Donc où est-ce qu'il faut placer notre espoir quand il y a une déception comme ça? Psaume 62, verset 6. C'est marqué, c'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre. Mon espoir vient de lui. Fred a parlé de ça la semaine dernière. On parlait du fait que c'est Dieu notre espoir. Et notre seule protection lors de la déception, c'est de nous remettre à Dieu. C'est la seule protection. La terre promise, c'est un pays excellent. Tout ce qu'on a vu, on peut dire, la terre promise, c'est un pays excellent. Mais c'est Dieu lui-même, mon espoir. Même dans le désert, dans la routine, dans le deuil, dans l'attente, quand je tourne en rond, quand la terre promise est loin, Dieu est là. Dieu est là. Car Dieu, vous avez vu dans l'histoire, Dieu a lui aussi choisi de faire demi-tour et de retourner dans le désert avec son peuple. Dieu n'a pas dit, moi je reste dans la terre promise et je vous donne rendez-vous dans 40 ans. Et puis pendant 40 ans, il n'y avait aucun contact. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Dieu, il a dit, bah, vous avez choisi ça, je ne vous lâche pas. Et je retourne dans le désert avec vous. Alors, ce qui est important là, c'est que ce que Dieu me promet, ça peut être magnifique, mais ça n'a pas plus de valeur que Dieu avec moi maintenant. Je répète ça. Ce que Dieu me promet, ça peut être magnifique, mais ça n'a pas plus de valeur que Dieu avec moi maintenant. Oui? Ça vous dit quelque chose? Certains d'entre vous, peut-être vous avez reçu des promesses pour votre vie et vous attendez bien sûr avec impatience que ça se voit. Mais cette promesse n'a pas plus de valeur que Dieu dans votre vie maintenant. Oui? Parce que Dieu, il n'est pas dans la promesse. Ben, si, dans quelque sorte. Mais il est avec vous. Il est avec toi. Il sera là au moment de la promesse, mais il n'attend pas là-bas. Il est là. Là où tu es maintenant, Dieu est là. Dieu est là. Et Et c'est Dieu votre espoir dans le présent. Dans le présent. C'est pas la chose promise. C'est Dieu ton espoir. C'est pas la chose ton espoir. C'est Dieu ton espoir. Et Caleb, il n'est pas tombé dans le piège de vivre dans la déception. Pourtant, il semblait avoir bien le droit de le faire, d'après ce qu'on a vu. Au pire moment de sa vie, il reste attaché à Dieu, sans se fixer sur ce qu'il n'avait pas. Ça ne veut pas dire qu'il a oublié ce que Dieu a promis, mais il ne se fixait pas sur ce qu'il n'avait pas. Et ce simple attachement à Dieu et cette simple confiance continue dans la parole de Dieu permet que presque 45 ans plus tard, c'est même pas 40 ans où on commence à voir l'accomplissement de ce que Dieu a promis. C'est 45 ans plus tard et la conquête du pays s'est bien entamée. C'est bien entamé. Et Caleb, il vient voir Josué à ce moment-là. Alors imaginez, vous avez deux vieux, d'accord ? C'est les doyens du peuple. Ce sont les deux seuls de leur génération en vie. C'est les deux seuls. Et donc voilà, on a les deux vieux qui arrivent. Et Caleb, il dit, Josué, salut. Parce que ces deux-là, ils ont une histoire ensemble. Ils ont une histoire. Et ce sont les deux seuls qui ont déjà parcouru le pays aussi. Donc il y a quelque chose de partagé. Là. Et en Josué 14, voilà ce que Caleb dit à Josué. Donc on est 45 ans plus tard, il faut retenir ça. Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet lorsque nous étions à Kadesh Barnéa. J'avais 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra. Ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Donc jusqu'à là, dans sa vie, il n'y avait pas de parole particulière parlée sur la vie de Caleb. Mais là, Caleb, il a 40 ans. Et à cause de ce qu'il a déjà montré dans sa vie, Dieu lui fait une promesse. La promesse est venue après le témoignage de la fidélité et l'obéissance de Caleb. Il n'attendait pas une promesse pour se mettre en confiance avec Dieu. Donc, si on continue, effectivement, il y a 45 ans, depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans et j'aime bien ce verset-là, je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, il a un petit cœur de guerrier, notre Caleb, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Bon, d'accord, peut-être que je ne serai pas en première ligne, mais je peux diriger, au moins, d'accord ? Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que des Anakim, ça c'est les géants dont il parlait, tu as appris que les Anakim y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il a affirmé. Donc ça c'est, 85 ans. Qui aimerait avoir le feu comme ça à 85 ans? Alors, qu'est-ce qui a nourri Caleb pendant ses 38 ans dans le désert? C'est Dieu. Dieu, il est plus fort que les géants. Parce que là, il reprend, à l'époque, on parlait des géants. Mais vous savez quoi? C'est le même Dieu aujourd'hui. Et moi, j'ai la même foi aujourd'hui. Ce qu'on voit là, en Caleb, ce n'est pas un homme rongé par la déception. C'est un homme qui s'est nourri. Qui s'est nourri de la promesse de Dieu, de la fidélité de Dieu. Il n'a pas dit, quoi ça sert. Il s'est dit, non, moi je vais rester en forme. Moi je vais rester en forme. Parce que le jour viendra, voilà, je vais faire mes un peu de musculation, parce que le jour viendra où je verrai les géants. Le jour viendra et moi, je serai prêt. Et Dieu, il dit au début 40 ans, ben, c'est 45 ans. Vous imaginez, si tu es quelqu'un qui compte les jours comme ça, 40 ans, allez, c'est aujourd'hui. Et en fait, non, on n'est pas encore là. Et Caleb, il doit attendre encore 5 ans pour que le peuple soit au bon endroit, pour qu'il puisse aller voir Josué, pour dire, allez, c'est le jour. Donne-moi ce pays, je vais le prendre. Mais il a le feu. Il a le feu, ce gars-là. Et je ne sais pas si vous voyez un peu la différence entre quelqu'un qui se nourrit de ce qu'il aurait pu être et ce qui se nourrit de la promesse. Mais ce n'est pas la même chose. Se nourrir de la promesse de Dieu, c'est de dire, je l'aurai. Se nourrir de ce que j'aurais pu avoir, c'est, oh mince, regarde ce que je n'ai pas encore. Okay? C'est deux façons de regarder la même chose. Mais Caleb, il a choisi de regarder de ce point de vue de le jour viendra et moi, je serai prêt. Moi, je serai prêt. Donc, et effectivement, c'est ce qui se passe si on continue à lire dans le livre de Josué. Caleb a 85 ans. Il y va et il fait ce qu'il a dit qu'il a fait. Et Dieu est avec lui. Et Dieu le soutient et il a le pays. Et il reçoit son héritage. C'est un homme robuste, conservé, selon la promesse de Dieu. Et il est aussi convaincu ce jour-là, qu'il a 45 ans, de la fiabilité de la parole de Dieu, de sa capacité de vaincre les géants avec l'aide de Dieu. Et s'il y a une chose que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que souvent, ça fait plusieurs années qu'on a eu, par exemple, des responsabilités pour la jeunesse. Et souvent, ce que j'entendais, c'est « Oui, mais je ne connais pas mon appel. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour moi. » Mais moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous avez un fabuleux destin. Vous avez un fabuleux destin. C'est le fabuleux, pour l'instant, peut-être, c'est le fabuleux destin d'un homme ordinaire. Comme Caleb. Il n'y a personne qui a changé votre prénom prophétiquement. Il n'y a pas. Peut-être que vous n'avez pas vu une vision comme Antoine. Peut-être vous n'avez pas encore passé par ces choses-là. Et peut-être, honnêtement, ça ne va jamais se faire. Mais vous avez le fabuleux destin d'un homme ordinaire qui est animé par un esprit différent. Qui est animé par un esprit différent. Et cet esprit différent, si on peut juste mettre le dernier. Donc, j'ai mis le fabuleux destin de insérer un nom ici. D'accord? Donc, ça, c'est pour vous. Voilà. Tout le monde peut mettre le nom. Le fabuleux destin de Michael. Voilà. Le fabuleux destin de Michael. Et c'est le destin que Caleb. Il est déjà entré dans ça. Il n'avait pas de paroles précises. Il n'avait pas de choses particulières. Dieu ne lui a pas révélé dans un rêve. Mais même avant de savoir ce que Dieu voulait dire sur sa vie, son destin, c'était la fidélité à Dieu. Son destin, c'était la confiance en lui. Son destin, c'était l'obéissance sans hésitation jusqu'au bout. Alors souvent, j'ai remarqué avec l'obéissance, on arrive soit à l'un, soit à l'autre. Soit on arrive à obéir sans hésitation, mais ça ne dure pas. Soit on tient jusqu'au bout, mais ça prend un temps fou de se mettre en marche. Okay? Notre destin, le fabuleux destin de quelqu'un qui est animé par l'Esprit, c'était l'Esprit de Dieu en Caleb, nous avons ce même esprit, on a parlé de ça ce matin, c'est l'obéissance sans hésitation et jusqu'au bout. Donc ça commence fort et ça termine fort. D'accord? C'est la prise de position pour lui. Dieu te demande, Dieu t'appelle aujourd'hui à prendre position pour lui, comme Caleb a fait. Quand il y a les gens qui disent « Non, 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 on ne peut pas, on ne veut pas, on n'aime pas, voilà. » Il y a Caleb qui dit « Mais on y va, on y va, c'est le projet de Dieu, il faut qu'on s'investisse là, il faut qu'on se mette au travail. » Donc ça fait partie de notre fabuleux destin. La patience dans l'attente, ça on aime peut-être un peu moins, mais c'est quand même là. Notre fabuleux destin, c'est la patience dans l'attente. C'est la persévérance dans l'épreuve. On aime ça même encore moins, peut-être. Mais ça aussi, c'est dans notre destin. Dieu, il nous a animés d'un esprit qui nous permet à faire ces choses-là. Et puis, le dernier point, malheureusement, ça ne se voit pas très bien. Vous arrivez à le lire? C'est la conquête des géants lorsque Dieu ouvre le chemin. Ça fait partie de notre destin et il ne faut pas être quelqu'un avec un appel de je ne sais pas quoi pour que ça soit vrai pour vous. Parce que Caleb, c'est un homme ordinaire, mais animé d'un esprit différent. Et toutes ces choses-là qu'on voit dans la vie de Caleb, ce sont les choses pour nous. Et j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui. Surtout ceux pour qui... Vous dites, ouais, je ne suis pas sûre si j'ai un appel sur ma vie et je ne sais pas ce que c'est. Ça, je vous dis aujourd'hui, sans ambiguïté, ça, déjà, c'est votre appel. Amen. Ça, c'est déjà votre appel. Peut-être plus tard, Dieu va vous donner autre chose, peut-être des choses un peu plus précises, mais peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive, ça, c'est votre appel, ça, c'est votre destin en tant qu'enfant de Dieu. Parce que notre Dieu n'a pas changé. C'est le Dieu qui retourne dans le désert avec nous. Il attend le moment, comme Élise a partagé tout à l'heure, quand le moment est bon, quand on est vraiment prêt, c'est où on y va. On va à la conquête des géants. Et ce sont les géants qui peuvent prendre des formes très variées. Ce n'est pas les mêmes géants pour tout le monde. Mais ça, c'est notre appel. Et ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est juste qu'on regarde la liste là. Il y a peut-être les choses où on se sent un peu plus en mesure de dire oui, là je suis déjà entrée dans ce destin-là. Mais il y a peut-être d'autres choses où on est un peu moins sûr, peut-être. D'accord? La fidélité à Dieu. Est-ce que vous êtes fidèle à Dieu? Question simple. Est-ce que vous avez confiance en lui? Est-ce que vous faites confiance à Dieu? L'obéissance, sans hésitation et jusqu'au bout. Quand Dieu dit, voilà, est-ce que tu réagis tout de suite? Et une fois que tu auras réagi, est-ce que tu continues jusqu'au bout? Est-ce que tu arrives à prendre position pour lui? Quand c'est peut-être un peu compliqué, quand il y a les gens qui veulent te jeter des pierres, est-ce que tu arrives à prendre position pour Dieu? Est-ce que tu es patient dans l'attente? Ou est-ce que tu es plutôt énervé? La persévérance dans l'épreuve, quand c'est compliqué, vous tenez bon? Vous tenez bon? Et puis, la conquête des géants. Qui a envie? Qui a envie de vaincre les géants? Oui? Non, pas tout le monde. Il y a des gens qui disent « Ouh, des géants !» Ça fait un peu... Voilà, ce point-là, c'est pour vous, alors. Parce que ça fait partie de notre fabuleux destin. Et ce que j'aimerais, c'est est-ce qu'on peut se lever? Et je vais vous demander, simplement en regardant cette liste-là, peut-être il y a toute la liste où vous vous dites « Ouh, mince, il y a tout ça !» Je n'ai pas encore compris, mais bon, on va commencer de façon modérée, d'accord? Pardon, tu peux juste le remettre? Désolée. J'aimerais qu'on regarde la liste là, et simplement, on va dire à Dieu, Seigneur, ça c'est mon destin, ça c'est mon fabuleux destin. Même si je ne suis pas un Josué, un Caleb c'est bien. Moi je suis bien en Caleb, ça me va. Ça peut être un peu effrayant d'être un Josué, je pense, parfois. Être un Caleb c'est bien. On est des gens ordinaires, mais les gens ordinaires différents. Ordinaire différent parce qu'on est animé d'un esprit différent. Donc, pensez à une chose qui vous semble parler le plus. Et on va simplement demander à Dieu que par son esprit, il nous anime pour qu'on puisse vivre plus notre destin avec ce point-là. Ça va? Vous comprenez? Si je peux avoir Paul, tu peux venir? Et puis, on va terminer. Après, on va juste prendre un moment pour le faire. On va demander à l'Esprit de venir. Et puis, on va prendre le chant qui dit « Béni soit ton nom ». On a chanté tout à l'heure. On va le reprendre pour terminer. Tu donnes et tu reprends. Mais mon cœur choisit de dire « Béni soit ton nom ». S'il y a la déception dans votre vie, c'est le moment de choisir « Béni soit ton nom ». S'il y a les choses qui sont dures à vivre dans votre vie, tu te sens que peut-être Dieu n'a pas été aussi fidèle qu'il aurait pu être. C'est le moment maintenant de dire à Dieu « Je garde ce qui est bon, je me nourris de ce qui est bon, mais je ne vais pas me laisser ronger par les choses qui vont me détruire finalement ». Je ne vais pas penser à ce que j'aurais dû avoir, ce qui aurait dû être. Mais Seigneur, Seigneur, si je suis dans le désert, tu es là. Tu n'attends pas à la promesse, tu es là avec moi, maintenant. Et Dieu va te toucher ce matin. J'ai la confiance que Dieu ne va pas nous laisser partir aujourd'hui sans avoir eu un soulagement de la déception, si on est dans ce cas-là. Parce que Dieu est là. Et sa parole reste vraie. Et le jour viendra où tu vas vaincre les géants. Donc maintenant, juste 2 minutes pour dire à Dieu, dans ton cœur, pas besoin de parler à haute voix si vous ne voulez pas. Si ça vous aide de le dire à haute voix, bah, fais-le. Mais...